Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien. Et puis surtout que votre estomac va bien. Et oui, après toutes les crêpes que vous avez mangées hier. Eh bien oui, cela n'a échappé à personne. C'était la Chandeleur. Un anonyme a dit du bonheur le jour de la Chandeleur pour qui mange des crêpes, une pièce d'or dans les doigts. Alors bien sûr, pour ma part, eh bien du bonheur, je vous en souhaite toute l'année. Mais il est vrai que c'est formidable, toutes ces fêtes de tradition gourmande. Ne dit-on pas d'ailleurs que bien manger, eh bien, c'est le début du bonheur.
Est-ce que vous aimez le boogie woogie? Ouais, ben vous aimez le boogie woogie? Ouais. Eh bien, nous pas. Non, on adore. Allez, c'est un gag. Bien. Allez.
Ce soir encore, je renouvelle le corps à corps avec le pâté de foie. Mais cette fois, c'est la charcuterie premier choix. Sûr, je vais m'y reprendre à deux fois. Deux fois, Grimaldi, volaille, sauce, mayonnaise, la peau aux salmi. Poulet grillé, miam, filet de porc surpurée, filet de porc surpurée, côtelette de veau panée, panée d'hier. Refrain, c'est le repas bouguiwa, bouguiwa, c'est le repas de gala, bouguiwa, c'est le repas bouguiwa, c'est le repas de gala. Aïe. Pour continuer, j'en goûterai les crudités et le saumon mariné. Sans oublier le fameux saucisson fumé.
Fameux saucisson fumé.
Ah, condition d'y ajouter.
À quoi donc, monsieur?
Eh bien, quelques choux farcis, une centaine de crevettes et un gratin de noix.
Noix de veau.
Un roulé de veau et puis un sauté maringo.
Whoopi.
Conagno. Ah, rosine un bon beaujolais, c'est meilleur.
Ips. Pour la santé, yes,
chorus. Piano, Billy Boy.
Hommage, hein, parce que vraiment, gruyère Hollande pour ça, du roquefort, clos, mi-cantal, brie, camembert.
Hubert, fromage blanc, assaisonné de cannelle.
Avec du sel, dit, si on passait au dessert.
C'est une très bonne idée.
Attention, à vous les desserts. Crêpes Suzette, à vous.
Crêpes Suzette.
Plus fort, marquise chocolat.
Marquise chocolat.
marron glacé.
Marron glacé.
Rocher congolais.
Rocher congolais.
Tarte d'intrus.
Praliné vanillé.
Un savaillon, un gâteau meringué. Une petite prune, un vieux calva pour nous permettre de digérer tout ça. Un bon café, un cigarillo parfumé.
Cigarillo, tu me colles à la peau.
C'est le sommet de la soirée. Allez, avec nous, c'est parti. C'est non pas boogie wap, boogie boogie wap. C'est non pas de gala, boogie boogie wap. C'est non pas boogie wap.
Le groupe Chanson Plus bifluorait sur Radio Plus. Bon, c'est vrai qu'ils ont oublié une chose, hein, c'est qu'il faut quand même manger équilibré. Et oui, notre région est déjà en surpoids, alors doucement. Et puis de toute façon, là, je suppose que beaucoup d'entre vous êtes encore au déjeuner, donc bon appétit à vous. Alors, on ne parlera pas de nourriture à proprement parler dans notre rubrique Saltant sur la planète aujourd'hui, mais du contenant. Et oui, c'est fini d'acheter en vrac, comme on dit. Et à présent, tout est bien emballé. Alors, c'est soit dans du plastique, soit dans du carton ou du verre. Et ces emballages polluent notre planète à outrance. Un gros problème à résoudre. Surtout qu'en plus, nous entrons avec 2020 dans une ère anti-gaspi et donc de recyclage maximum. Jean-Louis Ouette, président de l'Étrême Nature, examinera ce problème avec nous. Et puis, nous retrouverons ensuite Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages et jardins des hommes, pour notre rubrique Jardiner autrement. Bertrand qui nous dira aussi que la plupart de nos arbres endémiques disparaissent. Endémiques, on vous expliquera ce que c'est. Et puis enfin, nous retrouverons Anne Renard, la maman de Romain, et elle nous parlera des progrès faits par son petit garçon atteint de troubles autistiques. En effet, Anne Renard a choisi de mettre en place la méthode 3i pour reconnecter Romain à notre monde. Elle avait d'ailleurs fait appel aux bénévolats sur cette antenne et depuis, bon nombre d'amis, comme elle aime les appeler, se relaient auprès de Romain pour une stimulation individuelle, intensive et interactive basée sur le jeu.
Si la vie n'est qu'une compétition, tout le monde ne sera pas champion. À quoi bon courir pour se retrouver seul à l'arrivée? Si nous n'avons qu'une consolation, bien sûr c'est l'amour. Attention, l'amour c'est pas simple, c'est un travail, mais pas une bataille. L'amour n'est pas un sport individuel, mais un jeu sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel. Les joueurs qui ne jouent que pour gagner, ma foi, laissons-les s'empoigner. L'important c'est de participer à la folle équipée. Compagnons logés dans la même chambre, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est ensemble. Et l'autre n'est pas un adversaire, c'est notre partenaire. L'amour n'est pas un sport individuel, mais un jeu sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel. Oh, sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel. L'amour n'est pas un sport individuel, mais un jeu sensible et sensuel. L'amour n'est pas un sport individuel, un effort, d'accord, mais pas un duel.
Alain Chamfort sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, tri, récupération, vrac, emballage recyclable, etc. Les Français sont-ils prêts à adopter de nouveaux comportements de consommation? C'est une des questions auxquelles l'OPSOCO, Observatoire du rapport des Français à l'économie circulaire, s'est attelé à répondre au travers d'une enquête menée auprès de 4000 citoyens du panel. Les résultats font notamment apparaître que le tri est un geste quasiment généralisé, avec 86% des Français interrogés représentatifs de la population qui disent trier leurs déchets, dont 59% systématiquement et 27% de façon régulière. Et puis, de façon assez contradictoire, eh bien, les jeunes de 18 à 24 ans, dont la conscience écologique va pourtant croissant, ne sont que 45% à trier systématiquement leurs déchets, contre 64% des plus de 55 ans. Néanmoins, 60% des Français disent trier et recycler davantage qu'il y a 5 ans, ce que confirme Citeo qui note que la fréquence de tri s'améliore à toutes les étapes de la vie, sauf justement chez les jeunes célibataires et les jeunes couples sans enfants. Alors, il va falloir faire des efforts.
Individus, tous jetables et biodégradables. Comment des individus peuvent produire tant de détritus? Ça va déborder, ça déborde. Tordu, même jetable et souvent lamentable. Comme autant dit les tordus, laisse quand même quelques résidus. Ça va déborder, ça déborde. Normal avant l'invention du mal, dire que tout est pardonné avant que la vie n'abandonne. Faudrait que la terre pardonne, mais ça c'est pas donné. Ça s'accumule, ça s'entasse et ça prend toute la place. Et tout ça, ça s'accumule. On a vu même de l'eau qui brûle. Ça va déborder, ça déborde.
Maxime Le Forestier sur Radio Plus. Et oui, ça déborde, mais il y a des solutions. Et tout de suite, on retrouve Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature.
Ça danse sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution,
opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, définition de Wikipédia, un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui ne présente alors plus d'utilité ou est destinée à l'élimination. Alors bien sûr, les déchets ont toujours existé. Ainsi, l'homme préhistorique dispersait les leurs, ou les siens plutôt, dans la nature. Mais ce n'était que des restes de nourriture qui se décomposaient selon le cycle naturel. Et depuis, et surtout depuis l'ère industrielle, eh bien les déchets ne sont plus les restes de repas, mais sont devenus bouteilles, canettes, cartons et autres emballages plastiques. Alors chaque année, il faut quand même savoir que 90 milliards d'emballages passe entre les mains des Français et constitue désormais le volume le plus important du contenu des poubelles. Jean-Louis Ouattet, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors votre association L'Étrême Nature organise ce jeudi 6 février à L'Étrême une soirée recyclage en partenariat avec le SMICTOM des Flandres et il sera surtout question de tous ces emballages qui évidemment se retrouvent à la poubelle. Or, nous en avons déjà parlé, 2020 a vu arriver la loi anti-gaspillage. Pour ne plus gaspiller, bien sûr, il faut recycler. Et pour recycler, eh bien, il faut apprendre à faire le tri.
Oui, tout à fait. Le tri sélectif des déchets, ça permet de réduire le volume des incinérations, ce qui est important, hein, quand on sait les dangers sanitaires des fumées. Et puis aussi d'économiser les matières premières. Donc, il est donc essentiel de respecter les consignes de tri. Et ces consignes, eh bien, ont évolué, et donc c'est pas toujours très simple pour le public, puisque ces nouvelles consignes de tri, eh bien, il faut les appréhender. Donc le 1er janvier 2020, tous les emballages, alors j'ai bien tous les emballages, plastiques, petits aluminium, acier, vont aller dans la même poubelle. Donc c'est une nouvelle méthode de tri qui vise à améliorer l'efficacité de la collecte de plastique. Enfin, toutes les collectivités seront peut-être pas au point pour cette date, mais en majorité, ça va être la règle. Hein. Plus besoin donc de se demander s'il faut laver le plastique ou si ce plastique va dans la poubelle recyclable ou non. Les petits emballages donc d'aluminium, acier iront aussi dans cette poubelle de tri. Alors, il faut savoir que ce changement a été rendu possible par l'amélioration technique des usines de tri, hein. Désormais, il y a un système de reconnaissance des plastiques. Il y a 11 types de plastiques différents qui seront traités. Alors, c'est fini, il sera fini le casse-tête du et ça, est-ce que c'est recyclable ou pas. Les emballages en verre, bon, seront toujours à déposer dans les colonnes de verre. Par contre, par exemple, les pots de yaourt, hein, bien raclés, les barquettes de beurre ou de viande, en passant par les films alimentaires, les sacs plastiques, les suremballages de packs d'eau, les paquets de biscuits, les pots de crème cosmétiques, etc. Et tout ça va aller dans le sac ou le bac de tri recyclable. Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. Et donc, ces consignes vont prévaloir à partir du 1er janvier.
C'est vrai que Jean-Louis, que quelquefois on se demande pourquoi autant d'emballages pour un seul article. L'emballage n'est-il pas bien souvent détourné de sa fonction première ?
Bah, on peut définir le suremballage, hein, puisque c'est bien un suremballage contre lequel il faut lutter. Mmh. C'est un procédé qui vise à améliorer la protection d'un produit ou d'améliorer surtout l'impact visuel avec un emballage supplémentaire qui est souvent pas nécessaire. Et puis qui modifie pas finalement sa conservation. C'est surtout du marketing, hein. C'est l'aspect marketing du suremballage qu'il faut dénoncer. Ça consiste bien sûr à ajouter un emballage carton afin de faciliter l'identification visuelle de la marque par le consommateur et jouer bien entendu la carte de la différenciation vis-à-vis de la concurrence. Et puis, il faut savoir que l'emballage, c'est la première vision qu'on va avoir d'un produit. Et pour, hélas, beaucoup de consommateurs, et c'est là où, quand on dit, je reviens toujours à la formule, choisir, c'est agir, c'est quand même les consommateurs qui ont le dernier mot, hein. Souvent, malheureusement, l'esthétique d'un produit est souvent synonyme de qualité. Donc, le choix, ce qu'on appelle du packaging, c'est un point d'honneur du marketing. C'est un véritable atout de séduction. Et puis, ça permet d'innover, il permet d'innover dans des domaines où l'innovation n'est plus possible. Donc, franchement, là, il y a beaucoup à faire là-dessus. Bon, l'exemple le plus flagrant, par exemple, c'est le rayon dentifrice des hypermarchés, hein. À quoi sert l'emballage carton des tubes, si ce n'est la plus grande aisance pour une marque d'y inscrire son identité, d'y ajouter des paillettes, des effets visuels, nous laissant croire à des dents plus blanches que blanches et à une hygiène dentaire, irréprochable. N'oublions pas quand même l'aspect pratique de la boîte rectangulaire, bah, c'est que c'est plus facilement empilable aussi dans les rayonnages. Donc voilà un petit peu un exemple de suremballage.
Et puis c'est vrai quand même que maintenant il faut mettre de plus en plus de renseignements quant aux substances contenues dans les dentifrices. Or il faut bien les écrire. Oui, il faut bien les écrire quelque part, c'est vrai.
Il faut les écrire quelque part, mais ça peut être écrit sur le tube lui-même. Mais c'est vrai que pour le rangement, on imagine des tubes de dentifrice. Le rangement n'est plus le même, donc il faut imaginer un autre type de rangement.
Tout à fait.
Donc les emballages, on peut classer les emballages en trois types. Il y a l'emballage de vente, il y a l'emballage secondaire. Il peut s'agir par exemple d'emballer un pack pour le consommateur ou faciliter l'approvisionnement des rayons, par exemple les packs de 6 bouteilles d'eau. Et puis il y a aussi l'emballage de transport. L'emballage de transport est aussi important puisque son but c'est de rendre la manutention possible en limitant les dommages aussi pendant le transport, donc faut pas l'oublier.
Donc il faut apprendre à faire le tri, mais surtout je pense qu'il faut apprendre à réduire notre consommation d'emballage. Et alors vous allez nous redire pourquoi c'est urgent, Jean-Louis?
Bah oui, parce que le suremballage c'est un fléau environnemental, vous l'avez dit, on jette 90 milliards d'emballages chaque année en France, soit 25% de nos poubelles. Alors ces emballages finissent soit dans les filières de tri, dans nos océans malheureusement, ou encore en émissions de fumée polluante après incinération. Donc si ces chiffres sont déjà choquants, ce n'est malheureusement pas la seule pollution liée au suremballage. Si on ajoute à cette pollution directe l'impact environnemental de la fabrication, toutes les matières premières, l'énergie consommée, les émissions à gaz à effet de serre liées au transport et aux infrastructures de tri et de traitement déchets, la note environnementale est plus que salée. Donc ça a un coût économique. Puis aussi le suremballage, ça induit un coût économique, et il ne faut pas se le cacher, c'est répercuté directement sur le consommateur et puis sur les collectivités qui traitent les déchets, donc aussi c'est le consommateur. Donc ça a un coût environnemental important.
Et puis donc chacun de nous peut évidemment contribuer à la réduction de déchets. Alors vous nous avez dit en évitant les suremballages par exemple, mais comment distinguer les suremballages des emballages vertueux?
Comment distinguer, c'est pas toujours quelque chose
d'évident,
de très simple. Ouais. Il faut dire non aux boîtes superflues, aux compartiments en plastique inutile. Il faut préférer un packaging minimaliste, tant dans la forme que dans le design, tout en veillant à garder les éléments essentiels à la protection du produit. Donc beaucoup de marques ont amélioré le design de leurs produits et leur packaging pour limiter l'usage du plastique. Ça commence quand même à rentrer un petit peu dans les mœurs. Bon, il y a certains produits, par exemple, qui ont un packaging en carton sans encre, sans aucune encre, uniquement du carton. Aussi des emballages qui sont réutilisables. Par exemple, une marque de chaussures de sport qui a fait de sa boîte à chaussures qui se transforme en un sac. Donc l'emballage acheté avec le produit s'offre une seconde vie pour d'autres usages. Ou alors, il y a une marque d'eau qui a réfléchi à proposer une fontaine de 5 litres plutôt que 5 litres d'eau avec un emballage plastique. Donc, ça permet de produire moins de déchets et puis de fidéliser un peu la clientèle. Donc, alors, aucune solution n'est parfaite, et c'est pas toujours très simple de faire le choix. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention, regarder les logos sur les emballages. Il y a actuellement toute une série de logos qui permettent aux consommateurs de faire des choix plus vertueux.
Tout à fait, alors oui, et puis reconnaître donc les emballages respectueux de l'environnement et de la santé. Dites donc, ça, à chaque fois qu'on a un petit peu ce genre de sujet, à chaque fois que ma conclusion est la suivante, c'est vrai que ça devient compliqué de faire ses courses, hein, Jean-Louis.
Oui, tout à fait. Mais bon, je pense que ça, c'est un changement qu'il faut adopter. Je pense que il faut évoluer. On se rend compte un petit peu de tous ces problèmes. Il suffit de regarder la télévision. Chaque jour, on a son lot de problèmes environnementaux. De déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans. Et puis bon, je pense que il faut faire un effort. Il y a des collectivités qui se sont lancées dans ce défi avec une réussite. Je pense par exemple la ville de Roubaix. Hein. La ville de Roubaix, on a essayé de lancer des opérations zéro déchet. Donc on l'a fait et puis ça marche, hein, puisque actuellement il y a 500 foyers qui sont inscrits dans cette expérience, qui ont essayé de relever le défi, eh bien, ils ont mesuré une baisse de 47% des déchets dans les poubelles. Et puis aussi, ce qui est loin d'être négligeable, ils ont fait des économies. Hein. Ça
Tout
a
à
été
fait.
Évalué à peu près autour de 1000 euros par foyer. Donc, c'est loin d'être négligeable. Donc, c'est vrai que ça demande un effort. Mais je pense qu'il y a possibilité de bien faire avancer les choses. Et là, à Roubaix, bon, c'est accompagné. C'est vrai que quelquefois, si on le fait seul, c'est pas toujours évident. Là, c'est un projet commun, c'est un projet de la ville de Roubaix. Et je pense que c'est intéressant.
En tout cas, c'est vrai qu'on a vu aussi à la télévision, vous parliez de télé, une dame qui avait consigné dans un bocal de 75 centilitres tous ses déchets d'une année. Cela reste rêveur. On a quand même du mal à y croire, mais bon, donc c'est vrai que après tout, on peut se lancer le défi. Voilà. Alors Jean-Louis, ceux qui veulent en savoir plus peuvent peut-être nous rejoindre ce jeudi à partir de 19h30 au centre socio-culturel de l'Étrême. Et de plus, Emmanuelle Delebecq viendra présenter le nouveau magasin zéro déchet qu'elle a ouvert à Merville, 4 août d'Asbrook. Ça s'appelle un caou dans le bocal. Et donc, c'est un magasin sans déchets où là, donc, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas d'œufs et on se sert un petit peu comme avant.
Beaucoup de vrac.
De vrac, voilà.
On peut amener ses...
C'est bocaux.
Ses contenants.
Ses contenants, ses sacs, ses bocaux.
Voilà.
Jean-Louis, merci.
Merci.
On se dit
bonne
à jeudi.
Semaine.
Merci, bonne semaine à vous.
Il faut vendre à la Chine, produire à Colombo. Programmer les machines, amortir les robots, liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours du café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis. Secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché. C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, 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 flip.
Gilbert Lafaye sur Radio Plus. Et oui, c'est jamais la faute à personne et nous sommes tous concernés surtout. Allez, tout de suite avec nous Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Alors, bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors aujourd'hui février, demain la Chandeleur, Sainte-Blaise à la suite. C'est un dicton gascon ça. Alors sans être gascon, vous pouvez nous aussi le dire. Hein. Bon, je n'en dirai pas plus sur les gascons qui mangent du foie gras et qui chassent encore l'alouette ou la palombe, n'est-ce pas? Je préfère Bertrand le dicton qui dit « Qui veut un bon champ de pois chiches doit le faire en février ». Alors c'est en Ardèche hein, qu'on dit cela. Bon, on sait qu'en Ardèche les températures sont plus douces que chez nous, où il est trop tôt quand même pour semer ces légumineux, je pense que vous allez nous le confirmer, mais on peut déjà peut-être y songer Bertrand et acheter des graines, surtout que les pois chiches se consomment de plus en plus, notamment par les véganes ou les végétariens, et pour cause. Alors on suit vos conseils Bertrand.
Alors tout à fait, alors le pois chiche est déjà très intéressant pour les végétariens car il est très riche en protéines, en amidons, en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc il y a du magnésium, il y a du fer, du phosphore, du manganèse, du cuivre. Donc c'est franchement un aliment pour les végétariens qui ne mangent pas de viande, ça amène des protéines et tout ça. Bon, alors, malgré toutes ces qualités, hein, il est encore très cultivé dans nos jardins. Hein. Je pense qu'on ne le connaît pas assez. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous avons reçu pas mal de visiteurs au jardin de l'ermite et puis très très peu d'entre eux ont pu mettre un nom sur la plante. Alors, chez nous, on va le semer plutôt fin avril, donc à la température est comprise entre 10 et 15 degrés. Alors, on sème soit en godet, soit en ligne, hein, dans une terre qui est humifère, si possible, mais surtout bien, bien, bien drainée. Il a horreur de l'humidité. Hein. Donc, par contre, un sol sec, caillouteux, ça peut lui convenir parfaitement. Donc, la plante va atteindre 50 cm de haut. Elle ressemble à un petit arbuste avec un feuillage assez particulier, hein, parce que les feuilles sont des feuilles composées avec plein de petites folioles dentelées, donc c'est très très joli hein, qu'on voit la plante dans le jardin. Les fleurs vont apparaître en juin, elles sont suivies par plein de petites gousses, par contre elles ne contiennent que une ou deux graines. Donc la récolte on la fait en juillet-août, alors que les gousses sont bien sèches, bon voilà. Et je dirais en plus qu'il faut surtout un emplacement très très ensoleillé. Elles adorent le soleil. L'année dernière c'était une excellente année pour les pois chiches chez nous.
D'accord. Bon, ben on suivra le conseil. C'est vrai que bon, Bertrand, en Chine, l'épidémie de coronavirus s'accélère. Hein. On a vu encore le nombre de morts ne cesse de grimper. Alors le lien semble avoir été fait par les autorités chinoises avec un grand marché de la ville où sont vendus quotidiennement et illégalement de nombreuses chairs animales fraîches. Une liste de produits mentionne les viandes de rats, de renards, de serpents ou de chameaux, entre autres. Bon, bref, on estime aujourd'hui qu'il s'agit très probablement d'un virus d'origine animale, mais sa provenance est encore débattue. Alors, des chercheurs de l'Institut Pasteur de Shanghai estiment qu'il aurait un lien avec la chauve-souris. Et la chauve-souris, c'est-à-dire que ce coronavirus serait une recombinaison entre un coronavirus de chauve-souris et un coronavirus de serpent. Alors, on en parle, Bertrand, de ces chauves-souris qui, même si elles peuvent véhiculer des maladies mortelles, sont très utiles et nous devons veiller à leur protection et pour cause.
Ouais, alors, si le lien s'avère exact, j'espère qu'on ne va pas commencer à détruire les chauves-souris.
Tout à fait.
Les chauves-souris sont vraiment très utiles et il faut les protéger. Donc, pour rappel, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux. Hein. Ça, c'est encore des choses que certaines personnes disent. Hein. Alors, sur les 1400 espèces connues, il y en a une trentaine qui vit en France. Et c'est quand même le seul mammifère qui vole réellement. Il n'y a pas d'autres mammifères qui volent comme elles. Alors, elles jouent un rôle essentiel et sont de très bons indicateurs des écosystèmes. Il faut savoir, ça, c'est quand il y a des chauves-souris, souvent l'écosystème est très bien. Malheureusement, comme les oiseaux, hein, on en a déjà parlé, comme les insectes, on en a parlé, 40% des chauves-souris ont disparu depuis une dizaine d'années. Donc la chauve-souris va chasser grâce à un sonar naturel, hein, elle émet des sons par la bouche et par les naseaux, et les réceptionne par l'oreille. Donc elles peuvent ainsi chasser et nous débarrasser d'environ 3000 moustiques par nuit. C'est énorme quand on voit tous ceux qui sont piqués par les moustiques et qui n'aiment pas ça. Alors, ce sonar naturel leur permet également de les localiser et de communiquer entre elles. Donc, si vous voulez attirer des chauves-souris chez vous, vous pouvez très bien, à la belle saison, hein, ou à partir du printemps, vous installer des nichoirs à chauves-souris sur votre mur, et c'est là qu'elles habiteront pendant la belle saison. Donc, moi, je pense qu'il faut à tout prix tout faire pour essayer d'avoir de plus en plus de chauves-souris chez soi.
Tout à fait. Puis de toute façon, si elle venait à disparaître, eh bien la nature a horreur du vide. Il y aurait quelque chose qui s'installerait et qui sait, bon, peut-être aussi vecteur de maladies, etc., etc.
Ouais, exactement.
Et puis de toute façon, l'humain n'est-il pas vecteur de maladies lui aussi ?
Aussi.
Bon. Alors, et puis Bertrand.
Et de bien d'autres choses.
Et de bien. Oui. Alors Bertrand, il n'y a pas que les espèces animales qui disparaissent. Science et Avenir nous apprend que 58% des arbres endémiques d'Europe sont menacés d'extinction. Alors un arbre endémique étant un arbre qui pousse de façon spontanée dans une zone géographique spécifique. Donc disparition qui est à craindre car bien sûr les arbres européens sont une source de nourriture et d'abri pour d'innombrables espèces animales. Et bien entendu, les facteurs de ce déclin sont toujours les mêmes.
Oui, tout à fait. Alors l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est l'UICN, vient de lancer une alerte. Donc plus de 40% des espèces d'arbres présents en Europe sont menacées d'extinction. Alors c'est un chiffre énorme qui devrait quand même alerter chacun d'entre nous, car les arbres sont essentiels à la vie. Alors de par les polluants, qui capte et stocke, même le gaz carbone qui est stocké, par l'oxygène qu'il rejette dans l'atmosphère, mais également par la source de nourriture et d'abri de nombreuses espèces animales. Donc effectivement, il y a plein d'arbres qui disparaissent. Alors il y a le sorbier commun qui est menacé, avec lui ce sont plus des trois quarts des 170 espèces de sorbiers européens qu'ils sont. Les marronniers disparaissent peu à peu, sont attaqués par la mineuse du marronnier. Les ormes ont quasiment tous disparu. Et plus récemment, ce sont les frênes qui furent attaqués. Donc franchement, les arbres commencent à décliner de plus en plus. Alors l'UICN indique que 58% des arbres endémiques d'Europe, ce sont ceux que l'on trouve nulle part ailleurs sur notre planète, sont menacés. Donc les causes sont multiples. Il y a le commerce mondial qui amène avec lui des parasites et des maladies. Il y a le réchauffement climatique qui n'arrange rien. Mais il y a également la déforestation, l'urbanisme, l'élevage intensif, et de nombreuses autres causes qui sont liées à notre civilisation. Alors moi je mets le terme civilisation entre guillemets, parce que tous les voyants sont au rouge et on continue à vivre comme si de rien n'était. Alors, j'ai l'impression que franchement, on reste dans une complète passivité face au péril qui menace les générations futures. Bon, j'espère me tromper, j'espère qu'on va réagir rapidement.
Face à tous les périls d'ailleurs, comme disait Jacques Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. Alors, bon, vous l'avez dit, parmi ces espèces menacées, il y a le marronnier, le sorbier. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais petite, c'est vrai qu'il y avait des sorbiers un petit peu partout dans notre région. Ils m'avaient frappé avec leurs petites boules rouges, les petites boules rouges qui plaisaient bien aux oiseaux d'ailleurs. Alors justement, pour pallier un petit peu à cette disparition, peut-on planter des sorbiers dans son jardin ?
Alors bien sûr, on peut cultiver facilement le sorbier dans notre jardin. C'est un arbre très rustique qui résiste facilement à moins 20 degrés sans aucun problème. Donc si vous désirez en planter un, donnez-lui une exposition au soleil, éventuellement à l'ombre légère. Le type de sol va lui importer peu. Toutefois, il va préférer toujours, comme beaucoup de plantes, un sol bien humifère, un sol riche, un sol frais. Plutôt un peu acide quand même. Et puis ça lui convient parfaitement. Donc c'est un petit arbre très décoratif qui atteint environ 15 mètres de haut à l'âge adulte. Et puis son impressionnante fructification en fait un véritable garde-manger pour les oiseaux. Donc on connaît bien sûr ceux à fruits rouges que vous avez cités, souvent des fruits rouges vifs qui sont très jolis, mais certains ont des fruits blancs, d'autres des fruits roses, etc. Il y a vraiment un très grand choix. Et je rappelle que c'est encore le moment des plantations, jusqu'à fin mars, et que chaque arbre planté, c'est un plus pour la vie.
Tout à fait.
Planter des arbres, planter des arbustes.
En tout cas, merci Bertrand, je vous souhaite une bonne semaine, une petite semaine au jardin. Vous allez profiter du climat un peu plus doux en ce moment.
Oui, c'est vrai que par des températures aussi climantes qui ne sont pas normales,
tout à fait.
On est super bien au jardin. Donc moi, je vous souhaite également une bonne semaine à tous les auditeurs. Également.
Merci à vous et à lundi.
À lundi.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses.
Yannick Noah sur Radio Plus. Changer les choses, c'est peut-être la façon de voir Dan Renard que j'accueille tout de suite. Et oui, il s'appelle Romain, c'est un petit bonhomme de 6 ans, porteur de troubles autistiques, qui grâce à la pugnacité de ses parents finira par quitter ce long tunnel dans lequel il est un petit peu comme emprisonné. Grâce à la volonté de ses parents, certes, mais aussi de tous ses bénévoles qui ont décidé de les aider pour le faire sortir de sa bulle. Anne Renard, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors vous êtes la maman de Romain. Alors on rappelle que parmi les différentes thérapies pour soigner l'autisme, eh bien il y a la méthode des 3 I comme intensive, individuelle et interactive. Alors méthode de prise en charge par le jeu. Mais Anne, je vous laisse nous en dire plus car et puis nous rappeler en quoi cela consiste surtout.
Alors déjà, c'est une thérapie d'échange et de développement, la méthode 3I, principalement par le jeu. Il faut savoir quand même que la TED, la thérapie de développement et d'échange, c'est une des pratiques qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé depuis 2012, même s'il s'agit d'une simple recommandation, ça en fait partie quand même. Il s'agit de permettre à l'enfant de reprendre son développement là où il s'est arrêté, dans un endroit sécurisant. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une salle de jeu, avec une présence continue, et les bénévoles qui ont été formés se relaient toutes les 1h30. Ils rentrent dans la bulle de Romain, en l'imitant, et lorsqu'ils arrivent à avoir l'attention de Romain, entre guillemets, un petit peu comme un feu vert, ils enrichissent le jeu. Le but, c'est de développer l'interaction sociale, ce qui est la base de tout développement. Alors, on sait que ça va prendre du temps, mais ce n'est pas un marathon, en fait. Hein. C'est vraiment une course lente et qui permet de refaire toutes les bases du développement.
Tout à fait. Alors, je disais justement de vous rappeler, hein, car vous êtes déjà intervenu dans l'air du temps, parce que cette méthode implique la nécessité de faire appel à des bénévoles formés qui se relaient toute la journée pour des séances de jeu 1h30. Et vous aviez donc lancé un appel sur nos ondes pour trouver des gens dévoués qui accepteraient de s'impliquer auprès de Romain. Alors, elle s'appelle Frédéric, Laetitia. Il y a des jeunes filles, il y a des étudiants, des hommes et des femmes de 14 à 70 ans qui sont devenus ses amis, comme vous les appelez, et qui jouent donc avec lui et qui arrive à échanger de façon progressive. Alors, quel progrès avez-vous pu constater depuis septembre, date à laquelle tout cela a été mis en place?
Alors, déjà, depuis septembre, Romain a fait beaucoup de progrès. On a un petit enfant, déjà, qui est heureux, qui est beaucoup plus souple au niveau du caractère. Alors, au niveau de la méthode, par exemple, il s'est habitué à la salle, à 38 bénévoles. Aujourd'hui, par exemple, il démarre avec Étienne ce matin, donc il démarre avec une séance d'une heure. Il s'habitue très bien, il a déjà pris la main d'Étienne, vous voyez. Donc c'est la deuxième fois seulement qu'il voit Étienne. Il est repassé par beaucoup de stades de développement au sol qui n'avait pas fait petit, et pourtant il court comme vous et moi. Comme le développement de la position horizontale a repris, il est beaucoup plus sécurisé au niveau de ses appuis. Du coup, la position verticale est mieux maîtrisée, il est moins hyperactif, il court moins partout. Ça, c'est un énorme progrès. Donc ensuite, au niveau vraiment des interactions, c'est vraiment le jour et la nuit, parce qu'il sourit des bêtises de son frère. Il sait faire la différence entre ce qui est exprès et pas exprès. L'autre jour, un bénévole a fait exprès de tomber du ballon, il n'a pas souri. Un autre jour, un bénévole est tombé sans faire exprès du ballon, et là, il s'est moqué de lui avec des gros rires. Donc vraiment, pour nous, c'est quelque chose, c'est une révolution. Il est beaucoup plus présent dans son regard et même dans les traits de son visage. Et il commence à se servir de plus de mots pour communiquer. Mais on sait déjà, en fait, que le langage, c'est pas la priorité pour l'instant. Un enfant ne parlera jamais tant que son développement ne sera pas terminé au niveau des 3 premières années. C'est tout à fait normal, en fait. Le langage, c'est un peu comme la cerise sous le gâteau. Mmh. Donc, c'est d'abord le développement et après, le reste va venir tout seul, en fait.
D'accord.
Voilà. Il est heureux, surtout.
Alors, Anne Renard, cette méthode des 3 I a été créée en France par Catherine Delaprelle. Et depuis, eh bien, elle a fait ses preuves. D'ailleurs, 40 psychologues et 6500 bénévoles partout en France ont vu les enfants suivis depuis 2006 faire d'énormes progrès. Alors, on parle peu de cette méthode qui montre par ses résultats que de nombreux enfants reprennent leur développement et sortent de leur bulle, ce qui leur permet de rentrer dans les apprentissages. Alors, nos auditeurs doivent quand même savoir que si cette méthode qui fait ses preuves chaque jour n'est pas toujours recommandée par les médecins spécialistes, c'est parce qu'elle n'est pas assez connue. Donc, en 2007, le professeur Richard Delorme, psychiatre, explique « Quand on a des patients qui ont un trouble du spectre autistique, On a envie qu'ils améliorent leurs compétences en socialisation, en communication, qu'ils soient parfois moins rigides. Si on les accompagne bien, ils peuvent être mieux avec l'entourage, plus sociables, moins rigides. Mais est-ce que c'est dû à la thérapie ou alors c'est parce qu'on les a accompagnés? Alors pour prouver que la méthode des 3i est efficace, il faut montrer que cette thérapie est plus efficace qu'un simple accompagnement. Alors Anne, vous en pensez quoi?
La méthode 3i, c'est pas un simple accompagnement pour nous. C'est vraiment une thérapie qui permet de reprendre le développement, de mettre l'échange. Donc, comme le docteur Delorme l'avait dit, c'est vraiment quelque chose qui remet l'interaction sociale au cœur de la thérapie. Et ensuite, là, vraiment, où on reprend le développement, là où il s'est arrêté, en fait. Mmh. Et on sait aujourd'hui que quand il y a un trouble de comportement, c'est qu'il y a, parce que il y avait forcément un trouble de développement. Le comportement, c'est que la conséquence. La cause, il faut aller rechercher la cause et agir au démarrage, en fait.
Tout à fait. Alors, toujours est-il que l'appel aux bénévoles est encore lancé, et pour cause, hein, 38 bénévoles qui se relaient. Bon, possibilité de participer toutes les semaines ou plus occasionnellement en remplacement. Donc, c'est vrai que pour eux, même pour les 38 bénévoles, disons que le fait d'avoir d'autres volontaires, ça serait quand même pas mal pour eux, qui pourraient peut-être un peu se libérer.
Oui, tout à fait, en fait. Comme je le disais, en fait, c'est pas un marathon, donc ça va prendre du temps. On est parti pour quelques mois, voire quelques années. Donc, plus la relève est importante, mieux c'est. Et puis les personnes, on a tous des soucis, on a tous un moment une grippe, on a tous un moment un problème où on peut pas intervenir. Donc si la relève elle est assurée, c'est déjà pas de stress pour le bénévole qui se sentirait obligé, malgré qu'il ait un problème, de venir tout simplement. Et du coup, en plus, on a remarqué que Romain adore le changement.
Ah
maintenant.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment une des grandes révolutions depuis septembre. C'est qu'il s'adapte à tout le monde, mais il adore quand c'est une nouvelle personne qui vient lui proposer autre chose dans l'échange, et lui, du coup, il développe d'autres habiletés sociales qu'il n'avait pas encore faites.
D'accord.
Tout simplement. Voilà.
Donc, je pense qu'il est bien peut-être de rappeler vos coordonnées, Anne.
Oui, donc c'est Anne Renard. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 77 63 32 11. Mon adresse mail, c'est viard, donc W-I-A-R-T, le tiré du 6, anne@orange.fr. Voilà, et si vous êtes dans le secteur, de toute façon, on a une page Facebook qui est Petit Héros, avec un S à petit et héros comme un héros. Voilà, et c'est une page publique à partir de, bah de déjà depuis quelques mois.
Voilà, 06 77 63 32 11. Et vous habitez l'Orgie. Alors, Anne Renard, justement, parce que cela marche, vous avez créé une association pour aider d'autres enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Et vous nous présenterez cette association lundi prochain.
Oui, avec grand plaisir. Bah, l'association s'appelle Petit Héros. Hein. Voilà, on est resté sur le même thème, sauf que voilà, il y a un S à petit. Et le but pour nous, c'est de faire connaître tout ce qu'on est en train de faire avec Romain. Mmh. Et c'est une association, voilà, de levée de fonds et d'accompagnement dans ce type de thérapie.
Voilà, donc vous nous présenterez toute l'association lundi prochain. Je vous dis donc à lundi. Merci Anne, et puis des gros bisous à Romain.
Merci, une très belle journée à tous.
Merci Anne.
À bientôt, au revoir.
Il y a des jours où l'on sent tellement pas beau, abonné absent, croqui KO. Envie de tourner la page, sable mouvant, marécage. Comme si le monde entier nous faisait la gueule, abandonné, tellement tout seul. Pour passer entre les gouttes, quitter cette mauvaise route. Joue, 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 poupée chiffon, retrouvée en nous, tout au fond. L'enfant qui joue au ballon, rire pour un oui, pleurer pour un non. Là-bas derrière, quelque part, bien moins terre à terre. Pigeon volé, cerf-volant, revoir la la vie comme avant. Arroser, arroser de peur que ne se ferme ce jardin secret, petit coin d'âme. Quand la vie nous fait faux bond, chercher l'enfant au ballon. Joue, 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 poupée chiffon. Retrouver en nous, tout au fond, l'enfant qui joue au ballon. Rire pour un oui, pleurer pour un non. Tout là-bas, là-bas derrière, bien moins terre à terre. Pigeon volé, cerf-volant. Revoir la vie comme avant.
À suivre pour la prochaine heure, Kaléidoscope. Et si vous nous quittez maintenant, eh bien laissez-moi vous dire au revoir et vous souhaiter une très bonne journée. Mais vous restez branchés, bien sûr. Allez, je vous dis à tout de suite.